Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Ainsi que nous le rappelions dimanche dernier, la mission laïque française marque cette année ses 120 ans d'existence. Créée en 1902, elle conduit hors de France une mission de service public dédiée à la scolarisation de jeunes français et de jeunes nationaux. Au Maroc, elle est implantée grâce à une association sœur, l'Office scolaire et universitaire international. L'OSUI a été créé il y a 25 ans et pour marquer cet autre anniversaire, la mission a choisi de tenir son congrès annuel à Rabat. Dans cette émission, la politologue Yousra Abourabi commentera les perspectives de développement pour le Maroc. Catherine Bellus, la coordinatrice de l'OSUI, évoquera le fonctionnement de l'Office et Jean-Marc Mériot nous rappellera l'importance du Maroc pour la mission laïque. Un reportage à retrouver sur notre site RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Yousra Abourabi.
Bonjour Éric Bataillon.
Vous êtes professeure assistante de relations internationales à Sciences Po, ici à Rabat, l'université internationale. Diriez-vous que le Maroc a une politique offensive aujourd'hui à l'international?
Oui, effectivement, il a une politique, je dirais pas offensive, mais dynamique et plus ambitieuse. Depuis une quinzaine d'années, le Maroc aspire à avoir une reconnaissance de son identité de rôle international. Il souhaite être reconnu comme un pays africain et pas simplement comme un pays faisant partie de la région qualifiée de MENA, Middle East North Africa. Et donc, pour être reconnu dans son africanité, le Maroc a engagé une politique africaine ces 15-20 dernières années qui ont fait de lui l'un des principaux investisseurs africains sur le continent, et il est également retourné dans l'Union africaine en 2017, et tout cela ainsi que d'autres choses participent de son intégration africaine et de la reconnaissance de son identité de rôle qu'il souhaite jouer, à savoir celle d'un pont entre l'Occident et l'Orient, entre l'Europe méditerranéenne et l'Afrique.
Justement, vous parliez d'une identité de rôle pour le Maroc. Par exemple, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Oui. Pour le Maroc, qu'est-ce que c'est?
Alors, le Maroc souhaite être reconnu dans une identité de rôle qualifiée de juste milieu. Le juste milieu, c'est une expression philosophique et religieuse qui renvoie à l'idée de modération ou de médiété. Et le Maroc, en fait, utilise ce terme aujourd'hui dans le langage politique, dans les discours officiels. Depuis de nombreuses décennies, on remarque que ce langage a acquis une valeur politique et diplomatique. Et ça renvoie aujourd'hui à l'idée que le Maroc souhaite être un médiateur, pas simplement dans les conflits, mais jouer le rôle de pont entre différentes aires géocivilisationnelles, être reconnu dans son ancrage africain, mais être reconnu comme un pays méditerranéen, et donc être toujours au juste milieu, à la fois dans le sens de la modération, mais à la fois dans le sens géographique.
Alors le Maroc se voit comme un pont finalement entre, par exemple, le Nord, l'Europe, et aussi le Sud, l'Afrique subsaharienne. Est-ce que le Maroc vise d'abord et avant tout l'Afrique francophone?
Alors, ce n'est pas qu'il la vise avant tout, mais c'est qu'au moment où il a commencé à développer sa politique africaine, il l'a développée d'abord avec les pays avec lesquels il avait déjà des relations depuis la guerre froide. Il se trouve que ces pays-là, c'était le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, des pays avec lesquels le chef d'État entretenait déjà des relations. Et il se trouve que c'était également des pays qui faisaient partie de la communauté à la fois francophile ou francophone. Et donc, les relations bilatérales du Maroc aujourd'hui, elles sont beaucoup plus diversifiées. Les investissements sont beaucoup plus importants, notamment les aides au développement du Maroc en Afrique et les investissements économiques dans le domaine des BTP, des télécommunications, du secteur agricole et autres sont plus importants dans ces pays-là. Cela dit, le Maroc aspire à être reconnu comme une puissance engagée dans la coopération Sud-Sud à l'échelle continentale. Et donc, bien que aujourd'hui, ces relations bilatérales avec les pays anglophones sont un peu moins développées, avec quelques exceptions notables, comme le Nigeria avec lequel le Maroc avait peu de relations. Il y avait même une forme d'hostilité au regard du positionnement du Nigeria par rapport à la question du Sahara. Aujourd'hui, ces relations sont en train de se renverser et de devenir beaucoup plus engagées. Mis à part ces quelques exceptions, le Maroc n'a pas de relations trop développées avec les pays anglophones. Cela dit, à l'échelle multilatérale et notamment à l'échelle de l'Union africaine, le le Maroc prend des rôles, notamment celui de promoteur d'une feuille de route de gouvernance migratoire à l'échelle africaine ou de défenseur des intérêts climatiques de l'Afrique, qui sont en fait sa façon de s'investir dans la défense des intérêts de l'Afrique en tant qu'ensemble.
Est-ce que la présence d'établissements francophones, français, au Maroc, notamment ceux de la mission laïque française, est un atout ou est-ce quelque chose qui peut entraver la marche en avant du Maroc d'aujourd'hui ?
C'est un atout. La diversification des langues, c'est un atout. Elle enrichit le savoir et les cultures des individus et donc des citoyens marocains. Le Maroc a toujours pratiqué plusieurs langues, mais il y a toujours eu des débats nationaux sur les langues à privilégier dans l'enseignement primaire et secondaire. Et aujourd'hui, ce débat a encore pris place il y a quelques années et il a été résolu d'abord par un discours royal qui a bien souligné que l'enseignement du français n'allait pas à l'encontre de l'identité nationale, contraire, il contribue à l'enrichir. Et donc, depuis 2019, l'enseignement du français s'est davantage accentué au primaire, au secondaire. Maintenant, il y a un autre intérêt lié à cette politique africaine. La plupart des relations du Maroc avec les pays africains se font avec des pays francophones. Le Maroc déploie une offre de formation technique, une offre universitaire destinée aux ressortissants de ces pays. Les représentants des différents ministères marocains coopèrent avec leurs homologues dans ces pays. Et donc, au niveau des jeunes, mais également au niveau des professionnels, il y a un besoin de monter en qualité dans la pratique et dans la connaissance de la langue française. Donc c'est tout à fait un atout.
Et le fait que le Maroc aujourd'hui soit un pays finalement multilingue, l'amazigh, l'arabe, le français, l'espagnol et un peu d'anglais aussi, est-ce que c'est un atout pour vous dans le développement du pays ?
Tout à fait. Si je prends mon exemple, moi je suis francophone, arabophone, anglophone et hispanophone pour le coup, et j'enseigne dans une université qui s'appelle l'Université internationale de Rabat. Nous enseignons majoritairement en langue française, mais nous avons une offre de formation en anglais, nous avons une offre de formation en arabe, et la plupart de nos étudiants pratiquent au moins ou maîtrisent au moins 2 à 3 langues. Et c'est une richesse pour eux, autant dans le fait que lorsqu'ils sont avec des étudiants étrangers, ils comprennent et communiquent et s'intègrent beaucoup plus facilement, mais aussi dans la perspective de la poursuite de leurs études à l'international ou de leur carrière au Maroc, la pratique de plusieurs langues et surtout la connaissance des cultures qu'il y a derrière ces langues, c'est une richesse qu'il faut préserver et même consolider.
Merci Yousra Abourabi.
Merci à vous, au plaisir.
Orient Hebdo sur RFI.
Bonjour Jean-Marc Mériot.
Bonjour Éric Bataillon.
Jean-Marc Mériot, pourquoi avoir choisi le Maroc pour venir faire ce congrès du 120e anniversaire ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Et la première raison, c'est les 120 ans de la mission laïque française et c'est les 25 ans de l'OSUI. Et donc l'OSUI, qui est en fin de compte le relais de la mission laïque française au Maroc, a été créé il y a 25 ans. Donc aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que ça s'inscrit. Et donc on voulait marier les deux, c'est-à-dire avoir cette capacité à marier les deux. Puis ça fait quand même pratiquement plus de 3 ans que nous ne sommes pas réunis en congrès. Et l'OSUI reste un de nos gros réseaux, c'est-à-dire avec sa capacité d'attractivité, avec sa capacité aussi d'avoir des belles expériences pédagogiques, de pouvoir partager un certain nombre de choses. Donc il nous semblait emblématique de pouvoir le faire ici. Et puis c'est aussi renforcer les liens que nous avons avec le Royaume du Maroc, quoi. C'est-à-dire notre capacité aussi à montrer que nous nous intégrons dans les pays là où nous sommes. Et c'est une dimension aussi très importante pour nous parce que ça réaffirme ces liens très forts que nous avons avec le Maroc.
L'OSUI, l'Office universitaire et scolaire, c'est un peu votre modèle pour le reste du développement de la MLF ?
On va dire que ça a été un modèle, un vrai modèle, mais là, dans le cadre des échanges que nous avons pu avoir au sein du Congrès, on sait que ces modèles-là, eh ben, il faut aussi les réinventer et être en capacité de pouvoir les faire évoluer, parce que nous avons aussi cette capacité d'adaptation. Et du coup, il nous faut sûrement repenser ce que peut être l'OSUI. L'OSUI, par exemple, pendant longtemps, a été une structure qui gérait beaucoup les établissements pleine responsabilité et qui n'avait pas beaucoup d'établissements partenaires dans son réseau. Donc ça, par exemple, c'est comment on intègre des établissements partenaires dans un réseau comme le ZUI. Donc ça, c'est des vraies réflexions qui auront bien évidemment aussi un impact au-delà de l'OSUI, vous voyez, donc c'est vraiment dans cette réflexion-là et dans cette dynamique-là que ça doit s'inscrire. Donc, ce qui se passe ici peut avoir un reflet dans le reste du réseau, mais il y a plein de choses qui passent aussi dans le reste du réseau qui peuvent avoir un impact sur... C'est le principe de faire réseau, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à mutualiser les bonnes pratiques, les bonnes approches, les bonnes dynamiques.
Merci Jean-Marc Mériot.
Merci à vous.
Orion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour Catherine Bellus.
Bonjour.
Vous êtes proviseur et vous êtes coordinatrice du réseau OSUI, ici au Maroc. De quand date la présence de la mission ici au Maroc ?
Alors, je suis proviseur du lycée français international Louis Massignon de Casablanca. Et l'OSUI est présent au Maroc depuis 1996. Il a commencé avec 200 élèves et aujourd'hui, sur 10 établissements, ce sont plus de 11 500 élèves qui sont répartis sur tout le territoire marocain, depuis Tanger jusqu'à Darla.
Donc tout le territoire marocain, vous avez combien d'établissements précisément ?
10 établissements en pleine responsabilité et un établissement partenaire.
Plusieurs établissements au fil du temps ont été... déplacés, ont été reconstruits. Est-ce que c'est une charge importante et pour quelles raisons finalement ces choix de déplacement d'établissement ?
Alors en réalité, l'OSUI est arrivé pour répondre à une demande des familles marocaines qui ne trouvaient plus de place dans les établissements français. Et cette demande allant croissant, nous avons été obligés de pousser les murs, de déménager plusieurs fois dans des espaces souvent contraints, dans des grandes villes comme Rabat ou Casablanca. Ce qui fait que nous avons dû déménager pour nous agrandir finalement.
L'enseignement est payant dans vos établissements, n'est-ce pas un problème alors qu'il y a désormais une prolifération de propositions d'enseignement étranger ?
Alors, l'enseignement est payant, c'est très important de le dire, mais c'est aussi un enseignement totalement autofinancé. C'est-à-dire que nous finançons l'enseignement uniquement à travers le financement des familles. Et donc, tout ceci a un coût. Et bien évidemment, dans ce monde concurrentiel, mais aussi en crise économique, bien évidemment, le coût de la scolarité, c'est un investissement. C'est un investissement pour 15 ans, pour des familles qui font le choix d'une éducation de qualité. Ils misent sur l'avenir à travers l'éducation de leur enfant.
Le Maroc présente une carte linguistique assez particulière avec cinq langues, l'arabe bien entendu, mais aussi l'amazigh, l'espagnol, le français, deux anciennes puissances coloniales, et désormais l'anglais. N'est-ce pas un problème pour l'enseignement du français ?
Alors non, c'est très clair, nous savons aujourd'hui, la science nous dit, les neurosciences et les études linguistiques nous disent que la construction des langues se fait de manière spiralaire et se co-construisent. C'est-à-dire que plus on construit de langues et mieux on parlera le français. On ne parle aussi bien le français que quand on maîtrise d'autres langues et c'est vrai pour toutes les langues. Ça c'est une vérité scientifique qui aujourd'hui nous permet d'assumer de l'enseignement en langue depuis la petite section de maternelle dans tous les établissements de l'OSUI.
Mais le français reste une langue, disons, de premier plan ici au Maroc.
De toute façon, c'est une langue nationale. Les Marocains parlent très bien français, ils sont francophiles, donc ils s'expriment librement en français. L'apprentissage de la langue française, c'est plutôt une langue de culture aussi. C'est la possibilité pour eux d'envisager leur monde à travers une culture commune et à travers l'arabe de manière tout à fait libre. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et les Marocains parlent un français de très très bonne facture.
Alors certains l'apprennent dès la maternelle, or je crois que l'on constate actuellement une légère baisse de la fréquentation des maternelles dans les écoles françaises. Est-ce un problème ?
Alors c'est un problème pour la pérennité de nos établissements, éventuellement pour l'avenir. C'est surtout un problème parce que le système éducatif français est basé sur cette école de maternelle, ces premiers pas dans les apprentissages que nous faisons fort bien. Nous analysons évidemment cette légère désaffection par les problèmes économiques récents et la pandémie, la peur d'avoir des enfants qui seraient confrontés au virus. Donc nous devons de nouveau convaincre et rassurer les familles pour qu'ils reviennent en masse dans nos écoles.
Que viennent chercher les parents marocains dans vos établissements ?
Encore une fois, ce sont des francophiles. Ce sont des parents qui souhaitent une éducation de qualité, internationale, puisque, bien sûr, c'est l'enseignement français, mais c'est d'abord et avant tout un enseignement biculturel, c'est un enseignement international qui permet de donner une ouverture sur le monde, qui permet de se projeter dans le monde de demain. Nous avons des éco-ambassadeurs, des élèves qui travaillent sur le développement durable, sur les neurosciences, sur la robotique. Donc c'est une ouverture sur le monde qu'ils viennent chercher et une capacité d'abord intellectuelle au voyage et puis après pour les études supérieures.
En quoi le réseau OSUI, OSUI, comme vous dites, au Maroc, est-il une source d'inspiration pour le grand réseau de la mission laïque française ?
Nous avons cette particularité d'avoir des établissements de 100 élèves jusqu'à 4200 élèves. Donc nous avons tout un panorama. Et puis nous sommes un réseau très solidaire, très producteur, très créatif. Nous sommes précurseurs, nous avons été précurseurs dans le cadre justement de l'apprentissage des langues, notamment à cause du bilinguisme du Maroc. Et en fait, bon, c'est simplement une synergie et un partage que nous mettons au service des autres réseaux qui constituent finalement qu'un grand réseau, du grand réseau MLF Monde.
Pour vous qui êtes proviseur d'un grand lycée, celui de Casablanca, quels sont les défis pour l'avenir de l'office et pour l'avenir de vos établissements? Y a-t-il des défis fondamentaux qui s'ouvrent à vous?
Alors, il y a un défi de pérennité, c'est-à-dire que nous ne sommes pas l'État, donc nous devons assurer la pérennité de nos établissements d'une part. Les grands défis, eh bien, ce sont ceux du monde pour nos élèves. C'est la possibilité pour eux d'être des élèves respectueux du monde et capables d'affronter toutes les compétences du 21e siècle, d'être adaptables, flexibles et de pouvoir vivre dans un monde serein. Nous essayons d'envisager ces défis avec eux. Le défi qui nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité, c'est aussi que nous travaillons en collaboration avec les familles, des familles qui attendent beaucoup de nous, mais nous partageons aussi beaucoup avec eux.
Le fait que le Maroc ait des intentions fortes en matière diplomatique sur le reste de l'Afrique, et notamment l'Afrique francophone, est-ce pour vous un message d'encouragement à continuer à travailler ici sur le Maroc ?
Oui, évidemment. Alors la MLF est présente déjà en Afrique subsaharienne et ce sont des liens que nous avons notamment avec la Côte d'Ivoire. Mais il est vrai que pour nous, c'est un signal fort de pouvoir travailler dans cette optique-là. Sachez par exemple que nous travaillons avec l'école centrale de Casablanca qui, elle, est ouverte par ses recrutements sur les élèves subsahariens. Donc nous travaillons déjà en collaboration dans ce cadre-là et tout ce qui peut encourager toute forme de coopération et d'ouverture vers l'Afrique plus au sud que le Maroc, nous en sommes partie prenante évidemment.
Le fait d'être un élève dans l'un de vos établissements, est-il une façon pour les familles d'envisager une carrière universitaire, en tout cas un passage dans l'université, de meilleure facture ?
Alors évidemment, à partir du moment où on est passé dans un lycée français, on a quand même un passeport, je dirais, un passeport de qualité qui ouvre des horizons sur toutes les universités. Ce que je voudrais préciser ici, c'est que traditionnellement, nos élèves font des carrières brillantes en France, en Europe, aux États-Unis, mais de plus en plus aussi se consacrent, en tout cas pour une partie de leurs études, au Maroc, pour pouvoir rester ici d'abord ou y revenir, parce qu'il y a aussi au Maroc aujourd'hui des universités comme l'Université internationale de Rabat qui proposent des formations, des doubles diplômes et des ouvertures sur le monde tout à fait intéressantes.
Merci Catherine Bellus.
Merci à vous.
Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Zulchani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Passez une bonne semaine. Tout de suite, le journal.